Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
J'ai grandi à Louisville, dans un rang. Au bout du rang, chez nous, c'est le village, la municipalité de Masquinongé. La municipalité de Masquinongé est, heureusement, assez hors de l'actualité. Je dis heureusement dans le sens où il n'y a jamais de graves incidents qui se passent là. Il y a eu une tornade au début des années 90 dont on a parlé à travers le Québec. Et là, le dernier incident en date, entre guillemets, puis je devrais même pas le mettre entre guillemets, c'est quelqu'un qui a été servi en anglais à une halte routière sur l'autoroute sur la municipalité de Masquinongé. Et je savais pas trop par quel bout prendre ce sujet-là ce matin, sinon que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé voir de mon vivant dans une place où c'est à 99,999%, probablement 100% en français que les choses se passent. On est dans une province, un État où la langue de travail, la langue de commerce, c'est le français. On a le droit d'être servi en français et plus que ça, les commerçants sont tenus de nous servir en français. C'est une loi, là. Et c'est drôle parce que la loi linguistique, la loi 101, la loi 96, la loi 22, là, il y a eu plein de noms puis plein de changements à travers le temps. C'est souvent la première loi qu'on bafoue. C'est souvent la seule loi qu'on bafoue puis qu'on trouve que c'est pas grave. Il y a d'autres lois qu'on bafoue pas puis on respecte toutes les autres puis celle-là, c'est la première qu'on chiffonne. On fait comme, en fait, la première pour laquelle on trouve toujours des défaites puis il y a toujours des défaites et je m'en veux parce que avant d'entrer en onde, j'en trouvais des défaites. Je me disais, je me fâche-tu après ça? Non, c'est pas le bon angle. Je m'insurge-tu de ça? C'est peut-être même pas encore le bon angle. Je suis juste déçu. Puis ce que je me rends compte, c'est ça. C'est que le premier réflexe que j'ai eu, je suis déçu de moi parce que je lui trouve des excuses. Parce que je fais comme, ah ben, une fois, café ou coffee, c'est la même affaire, tu comprends?
Ouais.
Je devrais pas trouver cette excuse-là. Une excuse que je verrais pas l'appareil nulle part sur la planète. Il y a aucun Japonais qui me parlera pas en japonais si j'y vais. Puis, tu sais, tu comprends?
Oui.
Puis là, à un moment donné, mais je me dis, ouais, mais peut-être que si t'es dans un endroit comme l'West Island, mettons, c'est normal. Non. C'est encore une excuse que je me donne. Je fais comme, ouais, mais là, ils manquent de staff, tu comprends? On est en pénurie de main-d'œuvre. Je suis encore en train de trouver une excuse. On est tout le temps. Puis là, je me dis, même un matin, en ouvrant le document, je dis peut-être que le gars, dans le fond, il se plaint pour rien. Je suis encore en train de trouver une excuse. T'sais. Puis il n'y en a pas d'excuse. La base linguistique dans laquelle on vit, c'est une loi. Ça s'appelle la Charte de la langue française. Là. Ça a été promulgué par l'Assemblée nationale. C'est une loi. Puis on considère pas grave de la contourner, de la bafouer. Puis quand on commence, puis là, c'est plus juste une anecdote. Le Tim Hortons, ils ont eu 226 plaintes, ouais, pour pas les nommer. Là, ouais. L'année dernière, à l'Office québécois de la langue française, il y a 96% de ces 226 plaintes-là, c'est le français dans le service. La porte d'entrée d'un commerce, c'est la langue que tu parles avec le client qui entre. Puis il y a une loi, puis on la bafoue, puis on l'oublie, puis on la triture, puis on la chiffonne, puis on la met de côté. Moi, ça me fait capoter. Puis ça me fait encore plus capoter que je trouve des excuses pour rendre ça acceptable, alors qu'on devrait être en sacrifice après ça, alors qu'on devrait trouver que ça n'a aucun Christie de bon sens. Moi, je me suis fait servir à New Richmond dans un Tim Hortons en anglais avec un français très, très, très approximatif. On va trouver l'excuse de laisse-le le temps de l'apprendre? Non. T'es un propriétaire d'entreprise, tu ouvres la porte de ton commerce, t'es tenu par la loi de servir les gens en français. Il n'y en a pas d'excuses. On va arrêter quand de nous-mêmes trouver des excuses à ceux qui nous effacent.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques. Ah!
cette guitare est endiablée.
Totalement.
96.9. Tu dois nous raconter un grand vertige, Étienne. Absolument. C'est la roulette qui te l'oblige.
Hey, juste avant, juste faire une précision. Dans les sports, j'ai dit que le Canadien joue à Ottawa. C'est mon erreur. Il joue à Montréal ce soir.
Contre Ottawa.
Ouais, faites attention. Faites pas de déplacement pour rien.
Non.
Oui, c'est quand même.
T'es allé à Canada.
C'est décevant, même quand il n'y a pas de match. En fait, même quand il y a un match.
J'ai même rien à faire là-bas.
Alors, oui, un vertige. Je vais vous raconter, en fait, c'est dimanche. Il y avait le football, et à un moment donné... Bon, Martin s'est pété les palettes sur le micro.
Voyons,
excuse-moi.
Comment c'est arrivé?
C'est ma main, en fait, puis j'ai reçu ma main sur la gueule après. Je suis arrivé pour gratter ma main, ça fait pas tant que de même, mais excuse-moi.
Ah, c'était bon, là, ça.
C'est-tu déjà arrivé à 11 ans, ça?
Oui, oui.
Alors donc... Dimanche. Je suis allé glisser avec les enfants. J'ai fait mal à ma fille sans faire exprès.
Oh oui.
Mais quand on est revenu, il y avait le football à la télé. Et à un moment donné, les deux m'ont demandé de venir sur moi. Ils étaient les deux collés sur moi. Il y en a un qui a Émile du gossé sur sa tablette. Marguerite...
Ah, regardez Émile gosser sur
ouais,
sa tablette.
Ben, tu sais, j'appelle ça faire l'oiseau un peu. Tu sais, juste faire pit-pit. Tu sais, juste t'sais, comme un oisillon. Là, fait, t'sais, papoter un peu oui, toute seule. Oui. Tu sais, à gosser. Mais je me rendais compte, et ça me faisait peur en même temps, de la chance que j'avais à ce moment-là. Parce qu'ils sont comme à un âge où ils veulent se coller.
Ben oui.
Et c'est le fun, là. T'sais. C'est vraiment le fun. Puis là, j'étais installé sur une chaise. Puis là, Martin, je vais te rejoindre. Sur une chaise berçante.
Ouais.
Les deux enfants collés sur moi, qui voulaient être collés sur moi. Et je me disais, aïe aïe, ce moment-là, faut pas qu'il arrête. T'sais. Puis en même temps, dans ma vie, t'sais, mes deux parents sont là encore. Oui. Mon frère et ma sœur sont là, sont en santé. Mes neveux, nièces sont toutes là. On est comme dans un sweet spot en ce moment. Il y a des affaires qui arrivent
ouais,
ici.
Ouais.
Là. Mais c'est sûr que ça ne peut pas durer.
Mm. Ouais, je comprends.
Et il est là le vertige. C'est qu'en ce moment, au travail, les choses roulent. Dans la vie privée, on vit des affaires super le fun. Et c'est sûr qu'à un moment donné, les choses vont changer.
Mm-hmm.
Et j'aime le changement. Mais là, j'en prendrais pas.
Ouais,
Il est comme là le vertige. Puis je connais pas la suite. Je sais pas qu'est-ce qui va changer en premier, mais c'est sûr que les choses vont
forcément.
Assurément, ouais. Moi, je vais changer. On va tous changer, mes enfants, puis ça va vite, tu sais. Moi, Émile a 5 ans, Marguerite 2 ans. Il y a un an, je pouvais même pas les tenir les deux sur moi.
Ah,
Marguerite
c'est ça.
Voulait bouger. Là.
Daniel, sur la messagerie texte, dit, je te confirme que moi, les miens ont 15 et 13 ans, puis ils se collent plus. T'sais.
Non, c'est ça. Il y a des désavantages à tous les âges. Il y en a, là, tu sais, Émile,
ah oui,
Marguerite, c'est terrible, tout ça. Mais Christ que j'aime ça en ce moment. Je suis dans un sweet spot, là.
Puis c'est le fun que tu le vois, tu comprends-tu, ouais. Que tu t'en rends compte. Il y a des gens qui sont tellement enterrés dans la vie de toutes sortes de préoccupations. Le travail, mettons, qu'ils le voient pas, ça,
ouais.
Cette fenêtre-là, ce sweet spot-là. Ça va changer, t'as raison de le dire, mais tu sais, moi, j'ai fait un deal. Un moment donné, j'étais dans ce spot-là avec mon gars, mettons, puis je pense qu'il y avait 5, peut-être 6 ans. Puis à chaque année, on se le rappelle, je dis, ça va changer dans la vie à un moment donné, je vais te taper ses nerfs. Lui, il disait, ben non, papa, je vais toujours t'aimer. Je dis, non, à un moment donné, tu vas voir, je vais te taper ses nerfs. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Si jamais je te demande un câlin dans la vie, t'as pas le droit de me refuser. Puis j'ai dit, la même affaire pour moi. Si tu me demandes un câlin dans la vie, jamais je vais te refuser. Puis aujourd'hui, il m'envoie chier. Mais il refuse pas mes câlins.
T'es comique? De retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande.
Plus sérieusement, les laboratoires Teva rappellent leur acétaminophène pour enfants en raison d'un risque de surdose. Et c'était l'occasion pour nous de parler des dangers de médicaments en vente libre, enfants et adultes, avec Mickaël, que vous avez entendu. Salut, Mick.
Bon matin, tout le monde.
Dans quelle situation spécifique on devrait être particulièrement vigilant concernant justement les médicaments en vente libre?
En vente libre, hein, donc les médicaments over the counter, sur le comptoir, devant le comptoir, ceux qu'on n'a pas besoin de demander l'avis du pharmacien. Alors, le Tylenol, c'est un excellent exemple, parce que pourquoi ils ont rappelé, Teva, ils ont rappelé leur acétaminophène, donc le Tylenol, c'est de l'acétaminophène, mais là, il n'y a pas que le Tylenol. Ils l'ont rappelé parce qu'en fait, il était mal dosé, c'est-à-dire, vous savez, pour les mamans qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, quand on donne des médicaments pour ses enfants, il y a des petites pipettes doseuses. pour donner, voilà. Ouais. Parce que pour les enfants, évidemment, ça va être dépendant du poids. Il y a une petite tolérance. Mettons qu'à plus ou moins 1 ou 2%, tu peux pas t'attendre à des gros effets secondaires. Là, le médicament était mal fabriqué, mal dosé. Donc, effectivement, tu pouvais surdoser ton enfant. C'est ça qui est dangereux. Donc, évidemment, avec les enfants, comme le corps et l'organisme n'est pas exactement fait pareil, il y a des médicaments qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, les enfants de bas âge, faut pas leur donner de l'aspirine. Faut jamais leur donner de l'aspirine parce que ça peut faire des effets secondaires très graves. Tu disais l'Advil. Alors moi, je parle de l'aspirine, mais l'Advil, c'est-à-dire l'ibuprofène. Voilà. L'aspirine, tout ça, c'est des médicaments de la famille des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les INS, qui sont, parce qu'il y a aussi des anti-inflammatoires stéroïdiens, ça c'est la cortisone, c'est autre chose. Ça peut donner des effets secondaires rénaux très très graves. Donc moi, tous les ans, je vois arriver à l'hôpital des patients en gastroentérologie qui avait mal à la tête, avait mal au dos, n'était pas très au fait de que ces médicaments pouvaient donner des effets secondaires et qui prenait du Tylenol comme des bonbons jusqu'à ce qu'ils aient plus mal à la tête. Ouais. Mais le Tylenol, quand t'en prends, au bout d'un moment, tu arrives à une dose qui peut être tellement toxique pour le foie que ça donne des hépatites et des hépatites parfois qui s'appellent les hépatites fulminantes. Fulminantes, c'est que ça nécessite une transplantation du foie dans la journée.
Mais Michael, ça veut dire que la posologie, là, tu sais, autant pour les enfants que la pipette marche pas comme faut, ça veut dire qu'on respecte pas la posologie par mécanique, mais nous, quand on prend le médicament, c'est hyper important qu'on la suive, cette posologie-là.
Ah, c'est vraiment la base. En fait, c'est vraiment la base, parce qu'en fait, quand on te donne la posologie, ça te donne, quand on te dit qu'il y a la fenêtre thérapeutique dans laquelle le médicament va être efficace. En dessous, ça ne marche pas, au-dessus, ça peut être toxique. Et étonnamment, je sais pas exactement ce qui s'est passé quand le législateur a décidé que tel ou tel médicament allait être mis en vente libre, il peut y avoir des effets secondaires tout à fait graves. Avec certains médicaments, le Benadryl ou tous les médicaments qui sont comme ça des antihistaminiques de type 2, qui sont les médicaments contre l'allergie, la cétirizine, etc. Quand t'en prends trop, ça peut te donner des effets somnolents qui sont vraiment parfois super graves. Tu peux avoir aussi certains effets secondaires des vaccins. Tu peux avoir certains effets secondaires de tout ce qui va être les médicaments contre le reflux. Tu vas avoir le Pepto-Bismol. Ouais. Le Pepto-Bismol, quand on prend des quantités absolument astronomiques, ça peut te donner des syndromes de constipation qui peuvent aller jusqu'à l'occlusion.
Parce qu'on les place pas dans la catégorie de médicaments.
Exact. Océane Pelletier, sur la messagerie texte, elle vient de nous écrire. Moi, j'ai fait une overdose d'anti-inflammatoire. J'en prenais tellement pour me soulager que j'en ai fait un anévrisme.
Absolument. Oh, tu peux faire des ulcères hémorragiques, des choses comme
j'avais
ça.
J'avais aucune idée.
Donc, faut toujours lire le mode d'emploi. Ouais. Idéalement, même quand t'achètes un médicament devant le comptoir, moi, je pense qu'il faut demander au pharmacien exactement quels sont les risques, etc. Ouais. Et puis, les risques particuliers, c'est évidemment les femmes enceintes. Pauvres femmes enceintes, je le répète à chaque fois, mais les femmes enceintes, on peut rien prendre.
En fait,
tu peux quasiment rien prendre. Même les médicaments naturels, même les plantes, ça peut potentiellement avoir un effet tératogène, c'est-à-dire passer la barrière placentaire et agir sur l'enfant.
Puis, Michael, rapidement, si les médicaments sont périmés, est-ce que je peux les prendre? J'ai donné ça à mon enfant, c'est-tu dangereux?
Ça périme-tu un acétaminophène?
Excellente question. Alors, on le répétera jamais assez, quand un médicament périme, c'est très, très rare qu'il devienne toxique. C'est plutôt vrai pour les antibiotiques. Okay. Par exemple, la tétracycline, quand elle est périmée, ça peut devenir toxique. Le risque qu'on prend avec un médicament qui périme, c'est surtout qu'il va perdre de son efficacité. Et je redonne l'exemple de l'épipène, l'épinéphrine. L'épipène, quand il est périmé depuis un an, il perd 50% de son efficacité. Et quand il est périmé depuis 2 ans et plus, il est plus efficace, zéro. Enfin, entre 10% et 0%. C'est pour ça, faut toujours regarder son épipène. Ouais. Regardez les auditeurs. Vous allez checker votre épipène. Ouais. Je suis certain que la moitié d'entre vous, vos épipènes sont périmées depuis 5 ans. Ouais. Si vous l'injectez, c'est comme si vous injectez de l'eau.
De l'eau.
Le podcast Debout les comiques.
Je remarque dans l'actualité, avec le décès du docteur Mailloux qui a demandé l'aide médicale à mourir, c'est un soin de fin de vie, on s'entend, là. Ça pique ma curiosité parce que j'ai vu dans les jours suivants et depuis quelque temps, on dirait que ça se démocratise de plus en plus ou ça s'étend de plus en plus, cette pratique-là. Et ça me confronte encore autant, ce qui fait que j'ai la curiosité de parler à quelqu'un qui a vécu ça de proche, quelqu'un qui a accompagné quelqu'un, un de ses proches, dans ce processus-là. Et Joyce est au téléphone et elle a la générosité de nous en parler ce matin. Salut, Joyce.
Salut.
Joyce, merci de prendre du temps pour nous. Toi, pour planter le décor, tu as accompagné ton père qui a demandé l'aide médicale à mourir. Raconte-nous comment ça s'est passé pour toi, puis comment ça s'est passé en général?
Bien, en fait, ça faisait déjà plusieurs années qu'il souffrait à tous les jours. Puis dans le fond, lui, il voulait nous accompagner jusqu'à ce qu'on soit capable de s'occuper de nous-mêmes tout seul, sans lui. L'année dernière...
T'es jeune, là, Joyce, sans indiscrétion, là?
Oui, j'ai 25 ans.
OK.
L'année dernière, journée de la Saint-Valentin, mon père m'appelle. Puis il me dit, là, aujourd'hui, j'ai voulu mourir, ça va vraiment pas. Il faut que tu m'accompagnes à l'hôpital avant que ça dégénère. Mm. Fait que par la suite, je l'ai accompagné à l'hôpital avec ma sœur.
T'es allé faire la demande littéralement avec lui, là?
Oui, exactement. Dans le fond, on s'est rendu en ambulance, aux soins intensifs tout de suite. Puis, dans le fond, il a déposé sa demande là, dans les quelques heures qui ont suivi son hospitalisation. Puis, par la suite, ça l'a toujours tout de suite été accepté. Pardon.
Je peux-tu te demander, déjà, si ton père, il souffrait de quoi pour qu'il souffre autant?
Oh, il y avait beaucoup de choses, là.
Okay.
Il y avait la MPOC. Il y avait aussi de l'arthrite, de l'arthrose.
OK. Son corps entièrement souffrait, là. Ouais.
Oui, il y avait 3-4 maladies incurables.
Ils ont accepté donc votre demande rapidement, Joyce. Et là, vous autres, ça vous met devant une date à venir, c'est ça?
Une date à venir. Lui, il voulait que ce soit rapide. Ça a été le lendemain, moins de 24 heures après la demande.
Ah, ouais.
Ça, comment t'as reçu ça?
Ben c'est sûr que pour moi, c'était difficile, pour ma soeur aussi, dans un délai de temps de paralyser que du jour au lendemain, ça serait terminé.
Ouais.
Mais au bout du compte, c'était sa décision, puis c'est ce que lui désirait. Puis c'est ce qui est beau, dans le fond.
Ben parlons-en un petit peu du processus. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont gardé ton père à l'hôpital, visiblement, puis ça s'est fait là, à l'hôpital? Ils l'ont changé d'étage? Comment ça s'est passé?
Oui, absolument. Dans le fond, comme il était déjà hospitalisé parce que c'était dans ses plans, parce qu'il a comme été catégorisé comme risque suicidaire, donc il est resté à l'hôpital. Puis, je te dirais, là, peut-être un 45 minutes avant l'heure de décès, on est monté au dernier étage de l'hôpital.
Okay.
Là où c'est vraiment aménagé pour ça. C'est vraiment une pièce, l'étage au complet, où est-ce qu'il y a une chambre pour la personne qui va recevoir l'aide médicale,
mm-hmm.
où il y a de la place pour les proches qui veulent accompagner mm-hmm. jusqu'au dernier souffle. Puis, attenant à ça, il y a un salon d'attente pour la famille qui veut pas assister, mais qui veut être là par la suite.
Je comprends.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est vraiment aménagé super beau. C'est.
Fait que c'était pas froid comme on pourrait imaginer. C'était pas médical, tu sais.
Non, vraiment pas. Il y a aucune machine.
OK.
Il y a aucune machine. C'est un lit de type normal, là, comme on aura à la maison.
Ouais.
Puis tu sais, quand on regarde le plafond avec la personne qui part, on voit vraiment un ciel avec un soleil, des arbres, tout ça. Là.
Ouais. Et donc, ton père s'est endormi doucement. Puis toi, c'est un processus donc que tu as vécu après coup maintenant. Ça fait un an, bientôt un an. Comment je te dirais ça? Donc, je sais pas si ça te confrontait avant, mais donc toi, pour toi, c'est une façon parfaite de quitter la vie, mettons, quand on est en souffrance, là.
Ben, étant dans le domaine des soins infirmiers, je peux comprendre que les gens décident d'aller vers là. Puis d'ailleurs, c'est une meilleure avenue que le suicide, on s'entend, parce qu'il n'y a pas de surprise pour les proches. Là. C'est prévu, puis ils peuvent accompagner, puis il n'y a pas d'incompréhension. Là.
Tout à fait.
Puis écoute, tu me touches beaucoup pour vrai, et je sais pas quoi dire. Les mots me manquent pour vrai. C'est quelque chose, comme je te dis, qu'on voit de plus en plus. Mais en même temps, ton témoignage, je le sens, la paix qu'il y avait là-dedans. Tout ça, même malgré la surprise de la rapidité avec laquelle ton père voulait partir, tu sais, je sens quand même que ça s'est bien passé, je pense.
C'est inspirant, je trouve.
Ben après une vie de souffrance, moi je l'ai toujours vu souffrant. Ça faisait 20 ans qu'il était très malade. Moi, je suis juste reconnaissante qu'il ait attendu parce qu'il a pu connaître 3 de mes enfants.
Mm-hmm.
Donc, je suis vraiment reconnaissante que mes enfants aient pu connaître leur papy. Puis, je suis vraiment reconnaissante aussi qu'il ait pu avoir accès à ça rapidement comme il le voulait.
Mais moi, Joyce, c'est à toi que je suis reconnaissant. Merci infiniment d'avoir eu la générosité de nous témoigner ça, parce que on n'en entend pas tant de ces témoignages-là. Ça nous aide. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas. Merci infiniment. Je t'embrasse, ma belle Joyce.
C'est c'est normal que ce soit pas commun, c'est un deuil quand même, puis parler de la mort,
absolument,
c'est tabou encore.
Je le sais, t'as raison, c'est tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Joyce, merci infiniment de ton témoignage.
Ça m'a fait plaisir de vous parler.
Vraiment, vraiment, c'est quelque chose, je vais dire une affaire, puis je sais qu'il y a plein de gens qui réagissent à la messagerie texte. Ça fait partie de la réalité maintenant, puis moi, je me souviens de Véronique Yvon, qui portait ce projet de loi-là, même dans l'opposition, puis que ça avait été adopté par l'Assemblée nationale. C'est des questions qui étaient délicates, mais on est capable de faire les choses dans la grandeur, puis dans le meilleur intérêt des gens qui souffrent, tu sais.
Puis si vous avez le goût, vous googlerez Mélanie Lachance. C'est une jeune mère de famille qui a demandé l'aide médicale à mourir, puis qui l'a eu là, ouais. il y a quelques jours à peine. Et Rosemée Autonne-Témorin dans la presse en a écrit un article. Mm-hmm. Sam Breton a fait un podcast avec elle. C'est une histoire qui, même si c'est extrêmement difficile, puis c'est vraiment triste, est sublime. Mm-hmm. Puis c'est ça aussi l'aide médicale à mourir, tu sais.
Le meilleur des comiques, sur demande.
On a appris hier que le court-métrage québécois Invincible était nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction. Et le réalisateur Vincent-René Lortie est avec nous ce matin. Salut Vincent.
Salut.
Salut Vincent. Premièrement, félicitations. Comment tu te sens ce matin, 24 heures plus tard, après l'annonce de ta nomination?
Honnêtement, je pense que j'arrive toujours pas à y croire, là. Même que je me suis réveillé, je pense, à 5 heures du matin par moi-même parce que mon cœur battait toujours assez vite. L'émotion est au rendez-vous, là, je pensais pas.
Parce que tu savais déjà que tu étais comme sur la shortlist des Oscars, donc tu savais que ça pouvait t'arriver, ça, là.
Oui, c'est ça. T'sais, c'est un long processus, là. Ça fait quasiment 3 mois qu'on est comme un peu dans la campagne pour les Oscars. Puis là, le 21 décembre, on a appris qu'on était shortlisté, ce qui était déjà une super belle nouvelle. Mm-hmm. Mais bon, après, c'est sûr que comme la shortlist, c'est 15 films, il y avait des super bons films cette année, aussi des gros studios américains qui étaient comme dans notre compétition, là, si je veux dire. Fait que, c'était comme un peu, on avait un peu de la difficulté à y croire vraiment, ouais, qu'on serait nominé, là. Fait que ça a été aussi une immense surprise.
Okay. Mais Vincent, c'est fait, t'es officiellement en nomination. Ouais, ouais. Fait qu'on va écouter la bande-annonce de ton film qui s'appelle Invincible.
Ça marche.
Next. Alors, téléphone, drogue, arme.
Évidemment, on va inviter nos auditeurs à aller voir la bande-annonce en ligne parce que avec les images, on comprend tout ce qui se passe. Mais en gros, Vincent, c'est ton film, on a eu la chance de le voir hier. Il est plutôt troublant. Il raconte les dernières 48 heures de la vie d'un adolescent qui, lui, a 14 ans et s'est inspiré de l'histoire vraie de Marc-Antoine Bernier, qui était donc un ami à toi.
Oui, justement. Marc-Antoine, bon, on était ensemble au secondaire. On avait tous les deux le même âge lorsque tout ça est arrivé. Comme vous pouvez vous imaginer, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Oui. Qui a beaucoup aussi marqué tout le monde dans la communauté dans laquelle j'ai grandi, là, à Annecy. Fait que c'était comme... Mais bon, lorsque c'est arrivé, je pense que tout le monde pensait un peu que c'était un accident aussi. La manière que c'est arrivé, c'était très tragique, là. Je vous évite les détails, mais bon, plusieurs années plus tard, lorsque j'ai gradué de l'école à Concordia, je me suis dit que la prochaine histoire que je voulais raconter devait être personnelle, et cette histoire-là était toujours très, très présente en moi. Donc, j'ai commencé un peu à faire la recherche, à rencontrer à retrouver la famille, les amis aussi de Marc, puis à...
Comment ça a été l'approche de la famille, justement, Vincent? Ça doit être délicat en tabarouette à aborder?
Ça s'est fait vraiment naturellement. Tu sais, j'ai une super belle relation. J'ai toujours une très, très belle relation avec ma famille, avec plusieurs amis aussi de Marc, là, dans tout ça. Ça a été comme juste beaucoup des discussions à propos de Marc pour qu'on se rappelle un peu c'était qui cet enfant-là, cet adolescent-là. Puis à travers tout le processus qui a été Invincible, ils m'ont beaucoup accompagné. T'sais, moi c'était important pour moi leur support dans tout ça. Là, je voulais pas faire un film sans avoir comme leur support. Fait que j'ai été très touché. Ils sont venus presque à toutes les projections à Montréal. Ah.
La première scène du film, c'est la scène du suicide, en fait. Puis après ça, on voit les 48 heures qui ont précédé tout ça. Et malgré qu'on connaisse finalement comment ça va se terminer, tout le long, on espère que c'est ça vrai, change. Il y a comme une émotion de fatalité, mais en même temps, on aimerait ça qu'il arrive quelque chose. Est-ce que c'est exactement cette émotion-là que tu voulais susciter chez le spectateur?
Oui, tu sais, juste pour venir quand même, cette idée-là du suicide a toujours été comme un peu vague. T'sais, pour nous, à l'époque, on pensait que c'était un accident. Après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai comme compris qu'il y avait peut-être un peu cette idée-là que bon, est-ce qu'il se dirigeait vraiment dans l'eau? Est-ce que c'était sa décision de faire ça? Fait que c'est pour ça que, au final, pour moi, le film reportait pas sur l'incident en soi, la tragédie.
C'est
pour ça que j'ai voulu commencer le film par ça et ensuite qu'on découvre le personnage, qu'on découvre c'était qui ce jeune garçon-là, Marc, qui était à la base quelqu'un qui était tellement sensible, qui avait beaucoup d'amour à donner à ses amis, à sa famille. Puis pour moi, c'est ça qui était important dans l'histoire. Donc, je voulais pas justement baser le film sur la tragédie. Je crois que ça a été trop facile de finir avec ça.
Absolument, ouais, je suis d'accord.
Écoute, Vincent, j'ai le goût de te proposer quelque chose. On va te garder, on va sortir quelques secondes pour aller faire une circulation et on va te parler du jeune Léo-Kim Beaumier-Lépine, celui qui joue le rôle de ton ami dans ton film. Et j'ai des questions par rapport à ça. Ouais. Bouge pas, Vincent, s'il te plaît.
Parfait, merci.
Le podcast Debout les comiques.
Pas des choses qui arrivent souvent, mais il y a un film québécois qui a été nommé meilleur court-métrage, en fait, en nomination meilleur court-métrage de fiction aux Oscars. Et on a le privilège de jaser avec Vincent René Lortie, le réalisateur de ce film-là, qui est avec nous. Vincent, le jeune Léo-Kim Beaumier-Lépine joue le rôle de Marc dans le film. Il est
incroyable.
Hallucinant, incroyable. Mais comment ça a été de faire le casting, de trouver celui qui incarne ton ami d'enfance, puis de le diriger alors qu'il représentait ton ami dans sa souffrance aussi, là?
Oui, ben ça a été un long processus là, de plusieurs mois. On a comme rencontré beaucoup de jeunes. Puis pour moi, c'était quand même important de travailler avec quelqu'un qui avait jamais joué avant. Surtout pour tout ce qui était des jeunes castings du film, tous les jeunes qui jouent dans le film en fait, parce que bon, selon mon expérience, j'ai toujours trouvé que les non-acteurs qui sont plus jeunes jouent d'une manière qui est comme très très honnête, toujours un peu vrai, avec leurs vraies émotions. Fait que pour moi, c'est pour ça que je voulais travailler avec un non-acteur pour le rôle de Marc. Puis bon, ça a été... Lorsque Léo-Kim est rentré dans la salle d'audition, ça a été un coup de cœur, instantané. Et la raison est que Marc... Léo-Kim était... Léo-Kim était vraiment, vraiment proche de ses émotions. Était, d'une certaine manière, je crois qu'il comprenait
l'intelligence,
la personne qui était Marc aussi. Puis pour moi, il y avait une grande sensibilité, Léo-Kim. Donc, c'était vraiment...
Entre autres, son interprétation de l'angoisse et tout. Vous verrez le court-métrage, c'est incroyable. Ouais.
Mais d'ailleurs, si on veut le voir, le court-métrage, Valérie, c'est pas simple nécessairement.
Oui, c'est ça. On a cherché pour voir ton film, Vincent. Nous, on a eu le privilège d'avoir un lien parce qu'on faisait l'entrevue ce matin.
Oh, j'ai raté ça, moi.
Alors donc, pour le trouver, c'est vraiment compliqué. Ouais. J'ai deux questions là-dessus. Premièrement, on peut le voir où? Mais deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de voir nos courts-métrages au Québec?
C'est une bonne question. Ben, premièrement, je veux dire que là, le film est disponible partout sur TV5 au Québec. Fait, il est assez accessible, mais la raison, c'est que dans les dernières semaines, jusqu'à hier exactement, notre film était disponible en ligne gratuitement partout en Amérique du Nord. Et là, maintenant qu'il est en nomination, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on commence à avoir une distribution en salle partout en Amérique du Nord, justement. Et donc, il y a une certaine exclusivité dans tout ça. Par exemple, il va venir au cinéma moderne. Pas au cinéma moderne, mais au cinéma du parc dans quelques semaines. Là, bref, c'est comme... C'est pour ça que durant les nominations, c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir d'avoir accès au film gratuitement. Mais dans tous les cas, il est sur TV5.
OK, parfait. Génial. Vincent, t'as 30 ans. C'est ton premier film. Tu viens de mettre la barre quand même pas mal haute, laisse-moi te le dire. Mais je ne mets aucune pression, cela dit. C'est quoi ton plan de match dans les prochaines semaines? Règle générale, en nomination aux Oscars, est-ce que tu t'en vas travailler là-bas pour essayer de faire sortir ton film?
Oui, c'est ça. On planifie partir dès le 10 février, je crois, parce que le 12 février, il y a comme le grand dîner de tous les nominés. Là. Ouais. Quelque chose qui est comme assez excitant parce que je pense qu'on va pouvoir rencontrer plusieurs de mes idoles. C'est ça. Ouais, ça serait le fun, par contre, ça serait convivial. Mais non, c'est ça finalement. C'est je pense que je vais rester là pendant quasiment jusqu'aux Oscars. Mmh,
wow.
L'idée est de présenter le film à plusieurs reprises, de faire des rencontres aussi, de développer peut-être de futures collaborations. Fait que je peux aussi y aller pendant un bon
c'est
moment.
Tellement excitant.
Écoute, ouais, Vincent, on va te suivre le dimanche 10 mars. Juste mettons entre toi et moi là, c'est qui la personne avec qui t'aimerais jaser mettons dans ce fameux dîner là?
Le dîner, je pense, c'est une bonne question. Je pense que c'est Christopher Nolan, c'est quand même, c'est un peu une idole du cinéma. C'est comme quelqu'un que j'ai vu grandir comme cinéaste aussi. Donc, je pense que ça serait peut-être une des premières personnes. Après, j'en ai plein d'autres sur ma liste. Là,
c'est la grâce qu'on te souhaite, mon cher Vincent. Et merde pour tout ça, pour les Oscars surtout.
Mais en attendant, profite-en. Ouais. C'est un beau boss. T'as travaillé fort. Et son film, je le rappelle, s'appelle Invincible. Mm-hmm. Il est formidable. Ouais. Tout sur TV5. Vincent René Lortie. Félicitations encore.
Ouais, bravo.
Merci.
Salut, merci infiniment. Bonne fin de journée à toi.
Le podcast Debout les comiques. Ah!
Tout le monde commence à dire good, 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 good.
Un superstar, une vedette.
C'est un dossier facile.
Pierre Charles Jolicoeur.
Avec des affaires compliquées là-dedans.
OK, OK, OK. Jolicoeur.
Il dit une chance que tu nous aies poulé là-dedans. Là, on s'est fait avoir du
storytelling, élégance, TikTok, les chiffres.
Pierre Charles Jolicoeur.
Mon Dieu, ça campe bien le personnage.
Oh oui.
Il est avec nous, PC Jolicoeur. Salut, PC.
Salut.
PC, t'es courtier hypothécaire et ce matin, tu vas nous exposer un cas qui arrive malheureusement trop souvent. Mm. Une séparation. Qu'est-ce qui se passe avec la maison dans un cas particulier?
En fait, c'est parce que c'est... En effet, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent, mais il y avait un cas particulier qu'on vient de finaliser, ça a pris presque un an et demi.
Oh!
Parce que le problème principal qu'on avait eu dans ce dossier-là, c'est qu'il n'y avait aucune entente initialement, comme dans beaucoup de cas, mais celle-là, ça avait été catastrophique parce que, dans le fond, la fille qui nous a contacté, probablement, elle s'était fait dire par son institution financière que ça fonctionnait pas. Parce que, fallait qu'elle refinance.
Ça fonctionnait pas sur son financement à elle, mettons, pour racheter la
partie. Pour racheter les parts. Mais elle était comme PC. Moi, ça fait comme 10-15 ans que j'habite dans cette maison-là. On n'a pas d'enfants ensemble. Elle dit, moi, c'est ma maison. Fait qu'elle dit, je veux vraiment pas avoir à la vente. Fait que, on va commencer à regarder le dossier. Mais elle faisait un super bon revenu. Elle avait pas tant de dettes. Il y avait des dettes conjointes, style des marges personnelles puis des choses comme ça communes. Mais, rien de catastrophique, mais le problème était que la maison valait à peu près comme 400 000, puis devait comme 250 000. Okay. Fait que la manière que ça fonctionne quand tu veux racheter des parts, c'est que tu viens séparer le ce qui reste entre les deux. Fait qu'exemple, justement, que ta maison vaut 400 puis que tu dois 250, il reste 150 entre les
125
deux.
125 chaque.
Il reste 150 qui donne 75 000 chaque.
OK, je comprends. Okay.
Exact, parce qu'il faut que tu prennes le 150 puis on divise par deux. Mais avant de diviser par deux, faut aussi que tu rajoutes les frais. Exemple, qu'il y a des pénalités qu'il va avoir s'il y a des séparations, mettons, pour les marges, les cartes de crédit. Il faut que tout ce qui est conjoint soit divisé en deux. Fait que quand on venait tout additionner ensemble, déjà là, exemple, qu'une maison vaut 400 000, 80% c'est 320 000. Mais si tu fais 250 000 plus 75 000, on est déjà à 325 000.
Tu dépasses,
plus il fallait qu'on vienne rajouter un autre, je pense, 10-15 000 de marge. Fait que comme ma banque me dit que j'avais pas le choix de vendre parce que la maison, elle vaut pas assez cher. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est que les assureurs prêts, comme SCHL, tu sais, quand tu achètes, on va dire avec 5-10% de mise de fonds.
Ils viennent compléter ta mise de fonds.
Tu peux venir refinancer jusqu'à 95%. Tu payes une prime, mais ça peut venir te permettre de venir garder ta maison parce que tu peux refinancer avec un pourcentage de refinancement, mettons, qui va être plus élevé
que ça.
Qui va te permettre de venir garder ta maison. Fait que déjà là, elle était contente. Mais quand, mettons, que c'est des séparations à l'amiable, comme eux, ils n'étaient pas mariés, il n'y avait pas d'enfants, puis il n'y avait pas rien, puis qu'ils n'ont pas de papier comme eux autres, nous autres, il faut qu'on leur fasse signer un genre de montant de rachat, comme eux.
Lequel ils s'entendent. Fait que tu deviens momentanément comme le médiateur un petit peu de cette transaction-là.
C'est ça. Ben, indirectement, mais tu sais, moi, ce que je lui dis, c'est OK, mais est-ce que vous étiez 50-50 là-dedans? Puis comme souvent, le monde vont dire oui ou des fois non, mais elle, c'était ça le problème. Vu que c'était le gros salaire, il s'est entendu verbalement sur le fait qu'elle, elle payait 75% puis lui 25%. Mais là, quand ça
commence... payait plus dedans.
Ça n'avait jamais été écrit.
Ça n'avait jamais été écrit parce que...
Dans le fond, eux autres, tu présumes que ce qui était notarié, c'était qu'ils possédaient une maison et que cette maison-là, c'était 50-50 et qu'ils payaient donc 50-50.
C'est ça. C'est parce que techniquement, c'est pas marqué que c'est 50-50, mais d'emblée, selon la loi, si c'est rien marqué, mais si vous êtes trois, exemple, c'est 33-33-33, mais si vous êtes deux, c'est 50-50.
Fait que ce qui a été long, c'était pas l'institution financière qui voulait pas la refinancer, mais c'était de démêler ça entre les deux ex-conjoints.
Ça, c'était ça le plus long, parce que de trouver la solution, mettons, j'étais comme, OK, oui, mais c'est parce que ton conseiller de banque, il est peut-être pas juste au courant que tu peux faire ça, mais je fais, puis d'emblée, elle est comme, ben oui, on s'est tout entendu pis toute la quête, mais quand on a envoyé le document, Le gars voulait pas signer.
Il a breaké, lui-là.
Il voulait pas signer. Là, après ça, elle a essayé de faire une genre de tactique, de s'arranger avec un évaluateur pour baisser la valeur de la maison, pour lui donner moins, mais je suis comme, de un, c'est que tu peux pas faire ça parce que la banque, elle va mandater son propre évaluateur.
Mais lui, il va remettre les pendules à l'heure.
Puis de deux, c'est que tant qu'il signera pas un papier, mais chez le notaire, là, il n'y aura rien de fait, là.
Mais PC, ce que tu dis là, ce cas-là, là,
ouais.
Il y a beaucoup de gens qui ont rien préparé parce qu'ils se disent, ben voyons, on chicanera jamais. Puis si jamais on chicane, ça va être simple, on va être capable de se parler quand même, on connaît pas l'avenir. Puis c'est ça le problème.
C'est quand tu t'aimes qu'il faut faire les papiers.
Mais on dirait que c'est anti...
Mais c'est illogique. Mais c'est quand tu t'aimes que tu fais les papiers. Ah,
je trouve que ça enlève un stress aussi. Surtout maintenant que t'as des enfants, puis tout est comme, garde ça, on règle ça, c'est fait, parfait, c'est l'entente. Surtout comme niveau exemple que mettons, je mets 50 000 de mise de fonds, puis t'en mets 70, c'est comment qu'on s'arrange là-dessus? Ben c'est important que tout soit écrit.
Parce que ça, ce soit clair avant. On va aller en circulation, on le garde avec nous autres. Je sais qu'il y a plein de questions qui fusent.
Ben oui.
On aura aussi les questions de nos auditeurs. On va aller faire un court bilan. On revient dans 30 secondes. On s'en va même pas. On reste là, regarde.
Le podcast Debout les comiques.
PC Jolicoeur, courtier hypothécaire, qui est avec nous ce matin, il nous a exposé le cas d'un couple qui avait rien prévu et qui était pas 50-50 dans la maison. Ils se sont divorcés, ils se sont séparés, donc c'est difficile de démêler les affaires après coup. Ça fait réagir des auditeurs, des auditrices.
Ben oui, il y a Sophie Lalancette qui a écrit « Quand on a acheté la maison, on a fait un contrat de vie commune. » C'est-tu quelque chose qui aide? C'est un contrat de vie commune? Moi, j'ai pas ça.
Je connais même pas ça, un contrat de vie commune.
Il faudrait parler à un notaire. Oui, c'est ça. Mais tu vois, sur la messagerie texte, quelqu'un dit, et il mentionne pas son nom d'ailleurs, quand vous nous écrivez au 96.9, écrivez votre prénom. La personne dit, si je veux racheter ma maison, est-ce que je dois redonner la mise de fonds donnée à l'achat de la maison? Ça fait partie des choses que l'on doit prévoir dans l'argent qu'on va aller chercher.
Ça dépend de comment vous l'avez notarié. Tu notes des fois justement du monde que, exemple, un mettons, va mettre 20 000, l'autre va mettre 80 000. Fait qu'ils vont écrire, écoute, si on vend, ben le premier, mettons, X nombre, s'en va directement à moi, puis après ça, le reste, on
prend. Au prorata, mettons.
Exact. Mais si c'est pas indiqué, ça va vraiment être 50-50 sur la valeur, moins l'hypothèque, moins les frais, tout dépendamment. Après ça, s'il y a un pourcentage, par exemple, que vous avez quand même mis comme par écrit, ben tu détiens 30%, moi je détiens 70, ben ils vont y aller au prorata de ce qui reste au 70-30.
OK.
Ça va préciser. Hey, on a des questions de nos auditeurs, même un jeune. Salut PC, je m'appelle Julien, j'ai 17 ans. Je me demandais si j'ai une carte de crédit de 500$, est-ce que ça va compter dans mon crédit score plus tard ou c'est vraiment avoir une carte, mettons, de 2000?
C'est sûr que de partir avec 500, c'est mieux que rien parce que même si certaines institutions financières vont pas venir considérer des limites en bas de 2000, ça reste que quand tu vas vouloir faire augmenter ta limite avec ce même fournisseur de carte de crédit-là, ça va être plus facile de la faire augmenter éventuellement. Fait que c'est sûr que...
Parce qu'il va avoir un historique avec toi directement, puis ça va s'inscrire forcément.
Exact, parce que ça paraît pareil sur ton bureau de crédit. Mm-hmm.
Il y a Eric qui dit, c'est un problème de camionneur, puis il y a beaucoup de monde qui vivent ça, c'est-à-dire c'est une grande partie de son revenu qui est non imposable, c'est en perdième. Donc, ça réduit beaucoup ses capacités d'emprunt. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Ça, c'est catastrophique. À chaque fois, c'est catastrophique.
T'as des clients qui ont des parties de rémunération en perdième.
Puis des fois, c'est 50% de leur salaire.
Mais non,
on en a eu un là, récemment. Le gars, il faisait 150 000 par année, mais il avait 75 000, mais 64. Puis souvent aussi, c'est que ça crée un gros irritant. Là, le monde, mais là, je comprends pas. Fait il y a certains prêteurs qu'on a, mais des analystes qu'on travaille vraiment proche avec, qu'on est comme, oui, mais est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on peut le faire? Puis on l'essaye, mais si t'achètes, tu mets moins que 20% de mise de fonds, l'assureur prêt voudra jamais rien savoir.
Comme moi, c'est quoi? Je suis payé cash, faut que j'arrête ça. Là.
C'est sûr. Cash, là.
Mais je savais pas que à ce point-là, quelqu'un pourrait avoir la moitié de son salaire en perdu. Ben, un trocheur, je l'imagine,
C'est souvent ça.
Il y a une question de la part de Marc-André Caron qui vient de rentrer. Lui, entrepreneur en construction, puis je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont une PME, tu sais, qui travaillent fort. Mm-hmm. Il dit, moi, je fais ça depuis 6 ans. Je me sors une partie de mon argent en salaire, en paye annuelle, mais le reste, je le fais tout en dividende. Fait qu'il dit, à chaque semaine, je fais un dépôt dans mon compte, fait qu'on voit qu'il y a de l'argent. Mais dis-moi, il faut que je refinance d'ici 2 ans. Là, je veux prendre une décision. Est-ce que je continue plus en paye annuelle? Est-ce que je donne plus de dividendes? Comment est-ce
pour
qu'on
te faire
ça
comme
pour avoir un bon
dossier
portefeuille?
Ou avoir une façade qui monte de ce côté?
Parce que vu dans le fond que c'est dans 2 ans, parce que des dividendes, techniquement, c'est considéré comme c'est comme du revenu de placement, même c'est si c'est ta business. Fait qu'il faut que tu fasses une moyenne de 2 ans. Fait que si, exemple, on est rendu en 2024, mais le monde sont comme, oui, mais je me suis versé X nombre de dividendes en 2023. Oui, mais t'as pas fait tes impôts encore. Versus de quand c'est du salaire, ben techniquement, t'as
ça,
un qui est 4. Fait que directement, on est capable de le voir comme même ici. Là, c'est parce que tu payes mais des DAS au fur et à mesure. Fait qu'on sait que tu vas vraiment te verser le salaire. Fait que c'est sûr qu'en salaire, c'est plus simple. Tu peux, mettons, faire tu peux venir acheter ou refinancer, mettons, sur ton nouveau salaire plus rapidement. T'as pas nécessairement besoin d'attendre 2 ans. T'sais, si on a 1 an de stabilité, mais si t'es travailleur autonome, une paye stable ou les dividendes de moyenne 2 ans.
Mais attention, je t'entends, PC, tu dis, ça va être plus simple. Ça veut pas dire que c'est impossible, par exemple.
Pas tout.
Mais c'est des chemins qui sont compliqués, par exemple, convaincre avec, autant avec les perdièmes que quelqu'un qui se verserait des dividendes. C'est difficile de convaincre une institution d'embarquer dans le projet, là.
Surtout plus perdième que, mettons, du revenu de salaire.
Jean-Philippe sur la messagerie texte. Moi, je veux juste dire que PC, c'est une solide machine.
On est d'accord, puis on l'a avec nous autres à tous les jeudis dans Debout les comiques. Merci infiniment, PC, d'être venu nous voir encore ce matin. PC Jolicoeur, ici, au 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.